Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 7. Le docteur Hébert avait laissé sa protégée donner un libre cours à la douleur qu'elle avait eu tant de peine à dissimuler en présence du chevalier. Il n'avait pas été dupe, l'excellent homme, de l'attitude en apparence si calme d'Henriette. Il se rendait compte des tourments qui assaillaient l'âme de la jeune fille, alors même que son visage ne laissait rien percer de la souffrance éprouvée. « Pleure, pauvre enfant !» murmurait le bon docteur, en ouvrant la porte de la pièce où Henriette se lamentait. « Pleure, ce sont de bonnes larmes que celles-ci. » Et M. Hébert se retira doucement pour ne pas gêner par sa présence l'émotion qui se manifestait librement. Celle qui avait tant souffert, dont l'esprit n'avait résisté à la folie qui le menaçait que par un miracle, celle qui s'était vue perdue sans rémission, avait tout d'abord subi l'effet d'une réaction bienfaisante. C'était pour elle, après les épreuves terribles, mieux que la perspective du bonheur, la certitude que son avenir n'était plus à la merci du hasard. Mais presque aussitôt, de nouveaux nuages s'étaient amoncelés pour assombrir la lueur qui éclairait subitement sa vie. Roger allait la quitter. Il allait s'exposer à des dangers sans nombre dans cette guerre lointaine. Dans les hasards des combats, il suffisait d'une balle égarée pour anéantir à jamais son bonheur. Et le rêve qui la charmait maintenant qu'elle était fiancée, maintenant qu'il n'y avait plus d'obstacle à son union, ce rêve pouvait s'évanouir sans retour. Son imagination enfiévrée lui faisait voir son fiancé tombant sous la mitraille, étendu, pâle, le visage convulsé, les yeux éteints. Elle voyait de sa poitrine trouée couler le sang, et avec lui la vie s'échapper de ce corps inerte, foulé aux pieds des chevaux, broyé par les combattants, enivré de poudre et sourd aux cris des blessés, aux gémissements des mourants. Et elle ne serait pas là pour porter secours à l'être affectionné. Elle ne pourrait pas étancher le sang, soulever cette tête d'agonisant, réchauffer sous son souffle ses lèvres glacées. Elle ne pourrait pas dire à ce mourant que c'était son amour, son bonheur, sa vie à elle qui l'emporterait en remontant au ciel, et que lui, mort, elle mourrait. Tout ce lugubre tableau, elle l'avait entrevu, tandis que Roger était là, tout à l'heure, auprès d'elle, tandis qu'il lui parlait de l'avenir de bonheur qui les attendait tous deux, quand il reviendrait pour la conduire à l'hôtel. Et elle avait dû contenir les sanglots qui emplissaient son cœur. Elle avait eu la force de ne pas laisser éclater la douleur qui la rendait folle. Elle avait dû commander à son visage, comme elle commandait à sa pensée. C'est qu'elle avait bien compris que Roger aussi affectait le calme et dissimulait ses impressions. Elle savait qu'il eût suffi d'une larme arrivant à sa paupière, d'un seul cri de désespoir arraché à sa poitrine, pour faire tomber instantanément tout ce courage, toute cette résolution obtenue par un effort suprême de volonté. Un geste, un mot de sa part, et le chevalier se refusait au terrible sacrifice qu'on lui imposait. Il se jetait à ses pieds et la suppliait, comme autrefois, de ne pas exiger de lui un courage au-dessus des forces humaines. Et ce geste, elle avait été sur le point de le laisser échapper. Ce mot, elle l'avait eu sur les lèvres. Dieu était venu à son secours au moment où elle allait peut-être causer un irréparable malheur. La pensée de Louise lui était arrivée pour l'arrêter dans le mouvement de vertige qui l'entraînait. Alors, la résignation commença son œuvre dans cette âme, si profondément troublée. Quand le docteur Hébert reparut devant Henriette, celle-ci ne chercha pas à dissimuler ses larmes. Elle leva ses yeux humides avec un regard de remerciement pour son bienfaiteur. « Que ne vous dois-je, monsieur ? » fit-elle en joignant les mains. « Comment pourrais-je jamais reconnaître tout ce que vous avez fait pour moi ? » « En m'aidant à achever l'œuvre que j'ai entreprise, mon enfant, en continuant à vous montrer docile à mes conseils, puisque je ne veux que votre bonheur. Oh, je le sais, et je bénirai la Providence, tant que je vivrai, d'avoir permis que vous ayez eu pitié de moi, de nous, s'empressa-t-elle d'ajouter. Priez, mon enfant, pour qu'elle permette aussi que je réussisse. À guérir Louise, n'est-ce pas? Oh, vous la guérirez. Ne l'avez-vous pas promis? Le docteur eut un sourire. Il avait voulu éprouver le cœur de sa protégée en lui parlant de Louise, au moment où la pensée de Roger paraissait absorber entièrement l'esprit d'Henriette. et il avait pu juger à quel point celle-ci affectionnait la pauvre aveugle. C'était une première récompense pour cet homme de bien de la bonne action qu'il avait faite. « Oui, mon enfant, » fit-il avec douceur. « J'ai promis, en effet, parce qu'il s'agissait de rassurer une autre personne qui va passer, elle aussi, plusieurs mois dans l'anxiété. « Madame la comtesse ?»« Oui, la comtesse de Lignières, qui s'intéresse à notre chère aveugle comme si c'était sa propre fille, et qui, j'en ai la conviction, aura pour elle toute la tendresse, toute la sollicitude d'une mère. « Et c'est à vous seule, que ma Louise, mon amie, ma sœur bien-aimée, devra tout ce bonheur. Ah, tenez, monsieur, laissez-moi vous remercier à genoux, comme elle le ferait elle-même si elle était ici, si elle avait pu, comme moi, entendre les bonnes paroles que vous venez de prononcer. » Le docteur prévint le mouvement en empêchant la jeune fille de se prosterner devant lui. Il l'emmena doucement prendre place à côté de lui sur la causeuse. « J'ai voulu vous laisser seule tout à l'heure, » dit-il, « parce que vous aviez besoin de pleurer. Oh, ne cherchez pas à me le cacher, ne détournez pas vos yeux rougis par les larmes. Et ne sais-je pas ce qui se passe en vous? Que pourriez-vous me cacher des sentiments que vous éprouvez? Oui, j'ai voulu vous laisser seule avec toutes les tristesses qui assombrissent votre âme. Mais à présent, que vous avez donné un libre cours à votre douleur, promettez-moi, Henriette, que vous vous résignerez. Puisque vous avez lu dans mon cœur, monsieur, vous savez que je suis résignée et que j'accepte le sort qui m'est réservé. » Et baissant la voix que l'émotion faisait trembler, elle ajouta avec un soupir. « Puisque vous m'avez renseigné sur les sentiments si affectueux de madame la comtesse de Lignières, nous serons donc maintenant deux à aimer Louise. Et moi, vous ne me comptez pas? Je n'ai donc pas le droit de l'aimer aussi, ma petite aveugle? » « Vraiment ? » ajouta-t-il. « C'est presque de la jalousie, cela, mademoiselle Henriette. Vous voudriez garder pour vous seule toute mon affection ? Mais non, il faudra vous contenter de la moitié. L'autre revient à celle que j'avais déjà rencontrée, il y a plusieurs mois, dont j'avais regardé les pauvres yeux qui n'y voyaient pas, et à qui j'avais promis de m'occuper d'elle, de la soigner, de tâcher de lui rendre la vue. Mais oui, je la connaissais avant de vous avoir rencontrée, et elle m'intéressait déjà beaucoup. Vous voyez donc bien, mon enfant, que nous serons trois à aimer la chère aveugle. » Henriette gardait le silence, mais l'émotion se lisait sur ses traits. Monsieur Hébert, en parlant de la façon dont il avait rencontré Louise, ravivait en elle un douloureux souvenir, et elle se demandait pourquoi son protecteur lui rappelait cette terrible aventure. Elle ne demeura pas longtemps dans l'incertitude sur l'intention qu'avait eue le docteur. Monsieur Hébert continua en ces termes. « Elle a bien souffert, la pauvre créature. Ce n'est pas seulement sa cécité qui me préoccupe aujourd'hui. C'est autre chose que j'ai observée en elle. « Quoi donc, monsieur? Louise serait-elle menacée d'un autre mal? Courrait-elle un danger dont je n'aurais pu me rendre compte? De grâce, monsieur, ne me laissez pas dans cette anxiété. Dites-moi la vérité, quelle qu'elle puisse être. » La jeune fille s'était levée et son visage avait pris une expression d'angoisse. Le docteur lui saisit les mains et l'obligea à se rasseoir auprès de lui. Il avait dépassé le but, aussi reprit-il. « Je n'ai pas voulu vous alarmer, non. Notre jeune amie n'est ni menacée, ni même atteinte d'une maladie qui soit du ressort de la science. Ce que j'ai observé pendant son séjour dans ma maison a dû même échapper à votre attention, troublée comme vous l'étiez. Il ne s'agit pour le moment que d'une mélancolie qui peut bien avoir sa cause première dans les malheurs qu'a éprouvé votre sœur. Son séjour chez... Cette horrible femme, interrompit Henriette, chez cette créature qui l'a tant fait souffrir, et chez laquelle je suis arrivée pour la délivrer de l'épouvantable supplice qu'on lui faisait subir. Ah, comment ma pauvre chère Louise n'aurait-elle pas contracté là, dans ce taudis, au milieu de ces misérables, le germe de cette mélancolie que vous avez, dites-vous, observée en elle? Certes, vous avez raison. La vie de misère et de fatigue qu'on lui avait imposée si cruellement a dû laisser des traces dans son esprit. Elle se souvient assurément, pour les exécrer, de ces gens qui l'ont torturée, auprès desquels elle n'a trouvé ni pitié ni consolation, qui ont abusé de son infirmité pour en tirer un profit honteux. Je vous le répète, mon enfant, le souvenir de toutes ces infamies a dû provoquer bien des tristesses chez celles qui les avaient subies. M. Hébert s'interrompit un instant pour regarder sa protégée et lire sur son visage les pensées qui pouvaient s'agiter en son esprit. il avait pris un moyen détourné pour provoquer des confidences, si toutefois la jeune fille eût pu lui en faire. Mais Henriette se taisait, ne témoignant que d'une violente anxiété depuis qu'elle avait été mise au courant des préoccupations nouvelles du docteur concernant l'état d'esprit de l'aveugle. M. Hébert se décida donc à pousser plus loin cette façon d'interrogatoire. « Voyons, fit-il, depuis qu'elle vous a été rendue, Louise ne vous a-t-elle plus parlé de son séjour chez les Frochard ? Après la joie de vous retrouver ensemble, après les douces effusions, quand elle a été bien persuadée que désormais elle était à l'abri de tout danger, que nous veillions sur elle, vous avez dû, bien certainement, causer ensemble de tout ce que chacune de vous avait fait pendant les mois qui s'étaient écoulés depuis votre séparation. » « Ah, monsieur, répondit Henriette avec un redoublement d'émotion, quand nous nous sommes retrouvées toutes les deux, lorsqu'ensuite, grâce à votre généreuse bonté, nous nous sommes senties à l'abri de dangers nouveaux, que pouvions-nous nous raconter ? Ni l'une ni l'autre ne voulait affliger sa sœur qui avait tant souffert de son absence. Louise m'avait dit les épouvantables souffrances qu'on lui avait fait endurer. Lorsque j'abordais toujours indirectement ce sujet, la chère victime me fermait doucement la bouche par ces mots. « Pourquoi parler de ce qui n'est plus ? J'ai cruellement souffert, ma sœur, mais j'ai tout oublié depuis que j'étais là, près de moi, depuis que je sais que nous ne nous quitterons plus. » « Mon enfant, dit le docteur, je veux bien que notre amie ait voulu oublier son séjour chez l'odieuse Frochard et la scène sanglante à laquelle vous avez assisté toutes deux. Elle n'a pu la voir, cette terrible scène, mais elle a entendu les cris de rage du misérable qui a succombé, les imprécations de la mère infâme qui assistait à cette lutte fratricide. Elle a entendu les gémissements arrachés au malheureux blessé qui s'était fait votre défenseur. » M. Hébert s'interrompit un instant comme pour reprendre haleine, mais en réalité pour préparer un effet. Puis il reprit toujours d'une voix paternelle. « Ne croyez-vous pas, comme moi, que tout en éloignant ces épouvantables souvenirs, Louise ait cependant conservé une vive impression du secours inespéré qu'elle avait trouvé chez un infortuné, jusque-là victime comme elle ? Pierre ? Elle vous a parlé de lui. Je savais bien qu'elle ne l'a point oublié. Elle m'en a parlé souvent, tous les jours même. Avec un vif intérêt, n'est-il pas vrai ? Avec une profonde reconnaissance pour ce malheureux qui subissait pour elle des injures et des sévices. Ne supposez-vous pas que Louise aurait voulu donner à cet infortuné Pierre une preuve de sa reconnaissance ? Oh, bien certainement, mais comment ? Que pouvait la pauvre enfant ? Élevant les yeux vers le médecin. L'unique espérance qu'elle aurait pu concevoir, monsieur, eût été de vous intéresser à ce malheureux garçon. Le docteur dissimula sous un sourire l'impression qu'il éprouvait. « Vous croyez, mon enfant ? » fit-il, « que notre petite amie avait la pensée de s'adresser à moi ?» Henriette, pendant quelques secondes, parut embarrassée. Mais tout à coup, se laissant aller au sentiment qui l'animait, elle prononça avec effusion. « À qui aurait-elle songé sinon à notre bienfaiteur, lorsqu'il s'agissait d'obtenir une protection pour un infortuné ? À quel autre pouvait-elle s'adresser lorsqu'il y avait une bonne action à accomplir ? À qui, sinon à celui que nous avions trouvé si compatissant, si bon, si généreux ? Ah, monsieur le docteur, je puis le dire avec bonheur, Louise a eu un instant la pensée de vous prier, de vous supplier, de vous informer de ce qui avait pu arriver à Pierre. Mais elle a hésité. Elle n'a pas eu assez de confiance en moi pour me dire ce qu'elle éprouvait. « Oh non, monsieur, ce n'est pas cette pensée qui l'a retenue. Elle n'a pas osé. Nous vous avions déjà causé tant de peine, de soucis. Moi, surtout. Pauvres chers enfants, ne vous préoccupez pas ainsi du mal que vous prétendez m'avoir donné. Le succès que j'ai obtenu me serait déjà une récompense bien suffisante, et j'ai en outre la joie de vous entendre me parler comme à un père et me témoigner une gratitude qui me touche jusqu'au fond du cœur. » Le docteur ne parvenait plus que très difficilement à dissimuler son émotion. Henriette, qui s'en était aperçue, baissait maintenant les yeux pour ne pas augmenter l'embarras qu'il éprouvait. Au bout d'un instant, M. Hébert reprit. « Mais nous allons bien loin dans notre sujet. Je m'aperçois que nous avons quelque peu divagué tous deux. Revenons. À Louise ? Et à Pierre aussi. puisque nous causions de ces deux jeunes gens que le hasard avait réunis, que la communauté du malheur avait rapprochés, et qui se comprenaient si bien comme de pauvres affligés qu'ils étaient l'un et l'autre. L'excellent homme était complètement édifié sur les sentiments de reconnaissance que l'aveugle éprouvait pour le rémouleur, mais il n'était pas fâché d'apprendre par Henriette les confidences que celle-ci avait pu recevoir de son ami à ce sujet. « Oui, » fit-il, avec une insistance dont l'intention échappa à sa jeune interlocutrice. « Oui, je crois que si notre chère petite aveugle recouvrait la vue et qu'elle pût se guider elle-même, un de ses premiers soins serait de retourner dans ce quartier perdu de la Bièvre, afin de s'informer du pauvre rémouleur. » Henriette avait fait un petit mouvement de surprise. « Ce que je vous dis là vous étonne, mon enfant ? Et j'en devine la cause. Vous supposez, avec raison, que celle qui a tant souffert de la cruauté de l'affrochard ne voudrait pas se retrouver en présence de l'odieuse mégère, même pour s'informer de Pierre. Vous avez deviné ma pensée. Eh bien, je crois, moi, que Louise ne résisterait pas au désir de se rencontrer, ne fût-ce que pendant quelques instants, avec son ancien compagnon de misère. J'en suis intimement convaincue. D'abord, parce qu'elle n'aurait plus rien à redouter de la part de l'ignoble créature qui a abusé de sa cécité et l'a si indignement torturée. Ensuite, parce que notre amie se sentirait entraînée par une irrésistible impulsion. Que supposez-vous donc, monsieur le docteur ? Louise ne tardera pas à vous donner l'explication de ma pensée. Je ne vous comprends pas. Je veux dire qu'elle saisira avec empressement toutes les occasions de vous parler de Pierre. Et si vous la poussez un peu, je gage qu'elle vous fera part de son ardent désir de s'assurer que le brave rémouleur ne l'a pas oublié. Mais elle en est bien persuadée, monsieur. En vérité ? Elle m'a tout raconté, monsieur, ses conversations avec ce pauvre garçon, quand par hasard celui-ci, profitant de l'absence de la mégère, pouvait revenir dans le taudis où l'on enfermait ma bien-aimée Louise, et se hisser au haut de l'escalier qui conduisait dans le galetas où la pauvre chère enfant désespérait et perdait l'espoir de me retrouver jamais, appelait la mort. Louise m'a dit, poursuivit la jeune fille, dont l'émotion grandissait à ses souvenirs douloureux, que Pierre lui parlait avec une tendre compassion, et elle s'apercevait bien qu'en parlant ainsi, il retenait ses larmes, que tout en souhaitant qu'elle pût être arrachée par moi aux brutalités de l'affrochard, le brave cœur lui avouait que leur séparation serait une grande douleur pour lui, et qu'il deviendrait bien malheureux quand il cesserait de la voir et qu'il ne pourrait plus venir causer et pleurer avec elle. Elle vous a raconté tout cela ? D'autres choses encore qui m'ont vivement touchée, monsieur le docteur. Et que disait-elle encore, mon enfant ? Elle disait, cette chère infortunée, que tandis qu'elle entendait Pierre lui parler avec tant d'émotion et de tristesse dans la voix, elle regrettait amèrement de ne pas le voir. Le docteur Hébert garda le silence. Il comprenait qu'il y avait un double regret dans ces deux mots, « le voir », prononcé par la jeune aveugle. Ce fut Henriette qui reprit. Quand je l'entendais parler ainsi, je me rappelais l'aspect de ce malheureux déshérité de la nature qui boitait horriblement, dont la chevelure inculte, dont la taille courbée, dont les traits hâves et flétris inspiraient la pitié, presque la répulsion. Mais je me gardais bien de le dépeindre à Louise tel qu'il était. Vous supposiez donc qu'elle eût été moins reconnaissante en apprenant la difformité de Pierre ? Oh non, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et vous avez raison, mon enfant. Si, comme je l'espère, je puis rendre la vue à votre sœur, c'est moi qui la conduirai chez l'affrochard. Et avec une intention particulière, il ajouta. Je tiens à lui présenter moi-même ce brave rémouleur, boiteux, hâve, courbé et presque repoussant, comme vous disiez tout à l'heure. Et sans attendre qu'Henriette pût formuler une réponse, le docteur Hébert mit fin à la conversation en disant à la jeune fille. En attendant, mon enfant, que tous mes projets puissent se réaliser, priez Dieu que je réussisse dans l'opération délicate que je vais tenter sur votre sœur. Priez Dieu qu'au moment suprême, ma main ne tremble pas.